Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Et nous continuons de parcourir le livre du prophète Jérémie en essayant de comprendre toute la complexité des événements dont il est question. Il y a bien sûr déjà la difficulté de se repérer dans l'histoire d'Israël au 7e siècle avant notre ère. Il y a aussi le contexte politique de cette époque où les grandes nations, Égypte, Assyrie, Babylone, etc., se font sans arrêt la guerre et qui, au passage, envahissent Israël qui est sur leur chemin. Mais il y a en plus la difficulté de l'écriture du livre de Jérémie qui ressemble plus à un puzzle un peu désorganisé qu'à un récit logique et méthodique dont nous aurions pourtant bien besoin pour avancer clairement dans notre parcours. Mais nous ne nous décourageons pas,
jamais,
et nous abordons aujourd'hui le chapitre 23 qui fait suite à une longue récapitulation de la vie des derniers rois de Juda que nous avons vu donc précédemment. Comment définir ce chapitre 23? En tout cas, il commence par une prophétie d'espérance, mais elle est associée à une critique en règle des pasteurs, c'est-à-dire de tous les dirigeants du peuple hébreu, rois, prêtres et prophètes. Je vous en lis le début. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes.
Alors, cette petite introduction donne en fait le thème de tout le chapitre 23. Car il est tout entier un oracle contre ceux que Dieu tient pour responsables des malheurs à venir en Israël. Mais peut-être parce que les paroles que Jérémie va proclamer vont être assez terribles, nous trouvons d'abord 5 versets réconfortants hein, qui vont donner de l'espoir pour l'avenir. Alors, je vous lis le début de ce passage aux actions messianiques. Donc, on est toujours dans le chapitre 23, et là, je vous lis les versets 3 à 6. « Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. » Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il règnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Donc, quand les pasteurs manquent à leur devoir, le Seigneur lui-même reprend les choses en main. Il le fera par le successeur de David, qui non seulement rassemblera tous les exilés sur leur terre, mais aussi réconciliera Juda et Israël en refaisant l'unité des 12 tribus, comme au temps du roi David. Donc cela décrit tous les signes que doivent confirmer la légitimité du Messie.
Oui, c'est en effet le Messie compris ici comme un roi idéal qu'Israël attend et qui fera advenir des temps nouveaux de justice et de paix. Et l'oracle nous donne son nom symbolique, donc le Seigneur est notre justice, qui est curieusement proche du nom du dernier roi de Juda dont on a parlé, Sédécias, qui en hébreu signifie « justice de Dieu ». Alors pourquoi une telle analogie de nom ? Sans doute par dérision et surtout par contraste, parce que Sédécias est le roi qui va conduire à la destruction de Jérusalem et à l'exil à Babylone, alors que l'espérance dont parle Jérémie est le retour du peuple sur sa terre et le bonheur assuré dans la liberté. Ce qui est étonnant, C'est le genre d'irresponsabilité dans laquelle le peuple nous est présenté dans ce texte. Tout semble dépendre de l'attitude du roi et des dirigeants qui collaborent avec le roi. Le peuple a l'air d'être uniquement le troupeau qui suit et obéit. Si on lui ment, si on le trompe, il semble incapable de discerner ou de faire un choix, il ne peut que subir. Et dans la mesure où l'oracle parle du Messie, je pense quand même, puisque le Messie, pour le judaïsme, on l'attend toujours. Donc ce n'est pas le judaïsme qui est en cause, c'est nous, en tant que chrétiens, qui sommes très concernés par cette prophétie, puisque pour nous, le Messie, c'est le roi de justice et de paix, et il est venu en Jésus-Christ. Et si on peut effectivement dire que nous sommes le troupeau qu'il conduit, est-ce que cela nous rend, nous, chrétiens, pour autant si passifs ? Sommes-nous réduits à une simple docilité de mouton ? Même si c'est pour notre bonheur, ça me semble un peu insatisfaisant.
Oui, normalement, le chrétien est appelé à la liberté, hein, dit Jésus. Et cela exige certaines prises de conscience personnelles, me semble-t-il. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Hein. Il y a un confort certain à ne pas penser par soi-même et à obéir sans discernement. Cela renvoie les responsabilités sur les pasteurs et cela permet d'obéir sans réfléchir, ce qui est quand même assez reposant. Il y a toujours eu des hommes qui veulent diriger et d'autres qui aiment être dirigés. C'est une sorte de contrat réciproque tacite. Je dirais que c'est la même chose en politique comme en religion. Et est-ce que c'est à cela que le Messie appelle l'humanité ? Moi, il me semble que c'est un peu réducteur. Ne devrait-on pas plutôt tous mûrir, devenir autonomes et être des acteurs intelligents du destin du monde ? Parce qu'en faisant naïvement confiance à des intermédiaires humains, on risque aussi d'être victime de mensonges, de manipulations, d'idéologies qu'on pourrait qualifier de stupides. La crédulité du mouton est presque une provocation pour les prédateurs qui vont profiter de cette gentillesse. Alors, est-ce que le christianisme n'est pas d'abord un enseignement qui veut éveiller la conscience individuelle ? Ne devrions-nous pas tous être capables de prendre des décisions conformes à l'Esprit Saint ? En tout cas, actuellement, le pape François invite tous les chrétiens à être des disciples missionnaires, donc à prendre en charge la responsabilité du monde, chacun là où il vit, en s'adaptant évidemment aux circonstances réelles. Là, il n'est pas question d'obéissance systématique à des mots d'ordre simplificateurs. Tous, il nous faut apprendre à discerner, je pense.
Oui, mais il reste quand même que certaines décisions incombent aux seuls dirigeants. C'est le cas ici dans le livre de Jérémie. Ce sont les rois qui décident des alliances internationales et des déclarations de guerre. Et malheureusement, le peuple ne peut alors que subir. Quoique, il pourrait peut-être se révolter, mais...
Il y en a eu d'autres.
Oui, on peut toujours, effectivement, mais... Par contre, c'est moins le cas en ce qui concerne les problèmes religieux, parce que on ne peut pas contraindre quelqu'un à l'idolâtrie. On peut tout au plus le séduire ou l'endoctriner sournoisement. Mais la suite du chapitre 23 de Jérémie va mettre en évidence la perversité des dirigeants religieux à qui on ne peut pas faire confiance, qu'ils soient prêtres ou même prophètes. Donc je vous lis chapitre 23, les versets 9 à 11, un oracle donc de Jérémie. « Mon cœur en moi s'est brisé, tous mes os frémissent. Je suis comme un ivrogne, comme un homme pris de vin, à cause du Seigneur, à cause de ses paroles de sainteté. Car le pays est rempli d'adultères. À cause de la malédiction, le pays est en deuil. Les pâturages du désert sont desséchés. La course de ces gens est tendue vers le mal et leur force vers ce qui n'est pas juste. Oui, même le prophète, même le prêtre sont corrompus. Et jusqu'en ma maison, j'ai découvert leur malice, oracle du Seigneur. » Alors ici, il est question d'adultère dans cet oracle. Mais il n'est pas du tout question de désordres conjugaux dans le pays. C'est l'adultère, c'est la trahison de l'alliance, c'est l'abandon du Dieu d'Israël pour sacrifier aux idoles, aux petits dieux locaux, ou au contraire aux grands dieux étrangers des envahisseurs. Et c'est là que la responsabilité des dirigeants religieux est en cause. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous lisons le chapitre 23 du livre du prophète Jérémie. Nous sommes dans une section où Jérémie doit dénoncer la perversité des prêtres et des prophètes qui trahissent l'alliance avec le Dieu d'Israël et conduisent le peuple à la catastrophe. Je vous lis chapitre 23, versets 13 à 16. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu des extravagances. Ils prophétisaient par le dieu Baal et ils égaraient mon peuple Israël. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses monstrueuses. Ils sont adultères et familiers du mensonge. Ils prêtent main forte aux malfaiteurs et nul ne revient de sa malice. Tous ils sont devenus pour moi pareils à Sodome et les habitants de Jérusalem pareils à Gomorre. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur de l'univers contre les prophètes. Je vais les nourrir d'absinthe et les abreuver d'eau empoisonnée. Car à partir des prophètes de Jérusalem, la corruption s'est étendue dans tout le pays. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. N'écoutez pas les paroles de ces prophètes qui prophétisent pour vous et font de vous des êtres de rien. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui sort de la bouche du Seigneur. Voilà. Je remarque dans ce texte que je viens de lire qu'il s'agit encore du Seigneur de l'univers. Le Dieu du prophète Jérémie n'est donc pas seulement Dieu d'Israël et de Juda, il est le Dieu universel.
Oui, c'est ce qui permet de mieux comprendre que Dieu donne ici à Israël des instructions pour des relations avec les pays environnants. Donc, refuser le soutien de l'Égypte et bien sûr accepter l'invasion de Babylone. Puis, donc, c'est le Dieu de tous les pays, hein, et il se mêle donc aussi de politique internationale. De plus, il faut remarquer cette petite phrase de Dieu à son peuple. « N'écoutez pas les paroles de ces prophètes qui prophétisent pour vous et font de vous des êtres de rien. » Donc voilà qui rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Hein. On pourrait éviter beaucoup de problèmes en étant moins crédule, hein, en restant vigilant pour ne pas être soumis à des individus nocifs. Dieu espère un peu de discernement de la part de ses fidèles, pour ne pas écouter les faux prophètes. Alors, le verset, toujours dans le chapitre 23, le verset 21, est très clair, je vous le lis. « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils courent. Je ne leur ai pas parlé, et pourtant ils prophétisent. » Et un petit peu plus loin, versets 31 et 32. « Me voici contre les prophètes, oracle du Seigneur, ceux qui agitent leur langue pour proférer un oracle. » Me voici contre ceux qui prophétisent des rêves mensongers, oracle du Seigneur. En les racontant, ils égarent mon peuple par des mensonges et par leur vantardise. Alors que moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle du Seigneur.
Oui, voilà qui a l'air d'être un problème assez éternel. Comment ne pas se laisser manipuler par des marchands d'illusions ? Comment reconnaître des faux prophètes qui ne font que flatter les bas instincts pour en tirer un profit personnel? Comment discerner le vrai du faux dans les discours des dirigeants, surtout quand, comme ici, ils prétendent parler de la part de Dieu? Et Jérémie en est la preuve vivante, à mon avis. La confusion règne partout, et c'est lui, le seul vrai prophète accrédité par Dieu, qui est moqué, ridiculisé, et qui sera traité comme un paria. En tout cas, la fin du chapitre nous montre la colère de Dieu qui va mettre fin à toute cette incohérence. Je vous lis chapitre 23, versets 38-40. « Puisque vous dites les mots, proclamation du Seigneur, alors que je vous ai fait avertir de ne plus le dire, à cause de cela, je vais vous soulever comme une charge et me débarrasser de vous et de la ville que je vous ai donnée à vous et à vos pères. Et je mettrai sur vous un éternel reproche et une confusion éternelle qui ne s'oublieront pas. » Voilà, donc ici, nous voyons que pour sortir d'une situation inextricable, apparemment, Dieu choisit la destruction radicale, donc de Jérusalem. Comme si, quand le mensonge règne partout en maître, la seule solution, c'est de laisser tout aller jusqu'à l'autodestruction. Ensuite, peut-être, un renouveau sera possible. Et c'est pourquoi je pense que le chapitre 24 de Jérémie commence sur une vision. qui va permettre d'entrevoir un avenir meilleur après la crise.
Voilà, après la table rase, peut-être un renouveau. Donc je vous lis le récit de cette vision. Donc là, nous sommes bien au chapitre 24, et sont donc les versets 1 et 2. Voici que le Seigneur me fit voir, deux corbeilles de figues étaient déposées devant le temple du Seigneur. C'était après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut déporté loin de Jérusalem Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, ainsi que les princes de Juda, les artisans et les forgerons, et qu'il les eut emmenés à Babylone. L'une des corbeilles contenait de très bonnes figues, comme le sont les figues précoces. L'autre, de très mauvaises figues, si mauvaises qu'elles étaient immangeables. Alors, cette vision, donc, est antidatée, elle se situe pendant l'exil, en conséquence après la destruction de Jérusalem, donc en 597 avant notre ère. Mais Jérémie voit le temple. Donc, soit il ignorait qu'il allait être détruit, soit au contraire, il le voit déjà rebâti au retour d'exil. En tout cas, Dieu lui donne ensuite l'interprétation symbolique de cette vision. Donc un peu plus loin dans le chapitre 24, versets 5 à 8. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Comme on apprécie ces bonnes figues, j'apprécierai les déportés de Juda que j'ai expulsés de ce lieu vers le pays des Chaldéens. Pour leur bien, je poserai sur eux mon regard, je les ramènerai sur cette terre. Je bâtirai, je ne démolirai pas, je les planterai, je ne les arracherai pas. Je leur donnerai un cœur qui me connaît, car je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. »
Oui, c'est l'explication, donc, les belles figues sont les Juifs qui subiront la déportation à Babylone. Et par opposition, les mauvaises figues sont tous ceux qui se sont révoltés contre Babylone et ceux qui ont fui vers l'Égypte et aussi le roi Sédécias. Donc voici ce que dit le texte, chapitre 24, versets 9 à 10. « Comme on traite les mauvaises figues, si mauvaises qu'elles sont immangeables, ainsi parle le Seigneur, je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses princes et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent en pays d'Égypte. Je ferai d'eux un objet de stupeur, une calamité pour tous les royaumes de la terre, une insulte et une fable, un objet de raillerie et de malédiction en tout lieu où je les chasserai. Et j'enverrai contre eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils disparaissent de la terre que je leur ai donnée à eux comme à leur père. » Alors, que comprendre de l'explication de la vision ? Que Dieu se tient aux côtés des exilés à Babylone, donc sur une terre étrangère, alors que Dieu se désolidarise du roi Sédécias et de tous ceux qui ont voulu choisir la défense nationale et la résistance contre Babylone, quitte à se réfugier en Égypte. Donc, en fait, Dieu soutient les exilés et rejette les patriotes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu paradoxal.
Oui, peut-être faut-il comprendre justement que Dieu veut être entendu comme le Seigneur de l'univers et qu'il ne veut plus être considéré comme un petit dieu local lié à un territoire, même si ce territoire est auréolé de sainteté comme Jérusalem. L'enjeu est peut-être aussi de faire grandir dans le monde la connaissance du Dieu unique. En tout cas, c'est bien ainsi que l'histoire ultérieure d'Israël a évolué, car en exil, les Juifs ont pris donc conscience de la transcendance de Dieu et ils ont appris à le prier sans le temple et sans ses rituels et ses sacrifices. C'est à Babylone que le judaïsme devient réellement capable d'exister n'importe où dans le monde, donc trouvant ses racines uniquement dans les Saintes Écritures et dans le Talmud.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous venons de terminer la lecture du chapitre 24 du livre du prophète Jérémie, en découvrant que Dieu va rejeter tous ceux qui ont refusé de se soumettre à la domination de Babylone. Tous ceux qui ont préféré résister au nom du patriotisme se sont en fait bercés d'illusions, conduits par de faux prophètes qui ne tiennent aucun compte de la volonté de Dieu pour son peuple. Dieu s'impose ici comme Seigneur de l'univers. Mais même si à cause de cela, il semble s'impliquer dans la politique internationale, en fait, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est quand même le sens moral et le bon comportement des peuples. Car le début du chapitre 25 nous présente un résumé de toute la prédication de Jérémie qui va nous rappeler cela. Je vous lis quelques versets, chapitre 25, versets 3 à 6. Jérémie dit « Cela fait 23 ans que la parole du Seigneur m'est adressée, et qu'inlassablement je vous parle sans que vous m'écoutiez. Inlassablement le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes, mais vous n'avez pas écouté ni prêté l'oreille pour entendre lorsqu'il disait que chacun de vous revienne de son mauvais chemin et de la malice de ses actes. Alors vous habiterez sur la terre que le Seigneur vous a donnée à vous et à vos pères depuis toujours et pour toujours. N'allez pas suivre d'autres dieux pour les servir et vous prosterner devant eux. Cessez de m'offenser par les œuvres de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. »
En fait, en écoutant Jérémie, on se dit que si le peuple de Dieu avait obéi au commandement, s'il avait pratiqué hein, le droit et la justice, s'il était resté fidèle à l'Alliance, la face du monde aurait sans doute été changée. Il n'y aurait pas eu toutes ces guerres, ces invasions. Hélas, ce ne fut pas le cas. Alors, voici ce que le chapitre 25 nous dit ensuite. Donc là, je vous lis les versets 8 à 11. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur de l'univers, puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, voici que j'envoie chercher tous les peuples du Nord, oracle du Seigneur, et je les amènerai à mon serviteur, Nabuchodonosor, roi de Babylone, contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations alentour. Je les vouerai à l'anathème, je les livrerai à la désolation, à la dérision, à la ruine pour toujours. Je ferai disparaître de chez eux chant d'allégresse et chant de joie, chant de l'époux et chant de l'épousée, le chant des deux meules et la clarté de la lampe. Tout ce pays ne sera que ruine et désolation, et ces nations serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. » Ah, voilà une grande nouveauté dans la prophétie. Hein. Jusque-là, Dieu parle de destruction définitive. Et voici là que l'exil annoncé va se limiter en fait à 70 ans. On est plus près de ce qui va se passer en réalité, hein, puisque l'exil se terminera vers donc en moins 538, hein, soit en fait après seulement 59 hein, années d'exil, si on compte à partir de moins 597, date de la première déportation sous Joachim. Ou alors 49 ans si on compte à partir de la deuxième déportation sous Sédécias, hein, quand Jérusalem fut détruite.
Oui, le nombre de 70, c'est quand même aussi peut-être un nombre symbolique. Oui. On sait bien que c'est un nombre parfait pour dire une durée qui fait du sens religieusement parlant. Car de fait, même si l'exil n'a pas été éternel, il a quand même laissé des traces religieuses définitives. Il y a une idée d'accomplissement total dans 70. Quant à savoir si vraiment Jérémie a prédit la fin de l'exil, ou si ce sont des parties de textes ajoutées a posteriori, ben, c'est très difficile de rentrer dans ces études qui spéculent sur la manière dont le livre a été composé et surtout les dates de rédaction. À mon goût, il est préférable pour une lecture de découverte de se contenter du texte tel qu'il nous est parvenu sans trop décomposer. De toute façon, rien n'est jamais vraiment certain dans les spéculations sur les dates d'écriture de ces textes, qui sont tellement anciens. En général, les chercheurs changent d'avis au bout de quelques années. Contentons-nous de lire que Jérémie anticipe ici l'histoire proche et les événements qui attendent le peuple judéen qui va être déporté. Ce qui est étonnant, c'est ce qu'ajoute Jérémie dans ce texte à propos des 70 ans. Je vous lis versets 12 à 14 du chapitre 25. « Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, je sévirai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle du Seigneur, à cause de leur faute. Et contre le pays des Chaldéens, je le livrerai à la désolation pour toujours. Je ferai venir sur ce pays tout ce que mes paroles ont annoncé contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Des nations nombreuses et de grands rois les asserviront eux aussi. Je les rétribuerai selon leur conduite et les œuvres de leurs mains. Ce qui est quand même un peu culotté. Il y a quelques versets avant, il parlait de mon serviteur.
Oui, donc même si Dieu utilise Babylone pour un projet et une action militaire, cela ne veut pas dire qu'il s'agit là d'une alliance irréversible et inconditionnelle. Comme pour le peuple juif, le plus important reste le comportement moral et la conformité aux actes, aux lois divines, des lois qui sont en fait universelles. Et de nouveau, il s'agit là d'une vérité historique qu'annonce Jérémie, puisque Babylone sera à son tour écrasée par les envahisseurs perses. C'est d'ailleurs le roi perse Cyrus qui libérera le peuple juif et lui permettra de rentrer sur sa terre. Les civilisations se renversent les unes les autres avec foncièrement toujours la même immoralité. On pourrait même se dire que cela se continue encore de nos jours, malheureusement. Alors la suite du chapitre 25 est une introduction à des oracles que Jérémie va adresser aux différentes nations donc concernées par tous ces conflits. Donc là, je vous lis donc les versets 15 à 17 de ce chapitre 25. Oui, ainsi m'a parlé le Seigneur, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe de vin de colère et fais-la boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie. Elles boiront, tituberont, s'affoleront à cause de l'épée que j'envoie au milieu d'elles. Je pris la coupe de la main du Seigneur et je fis boire toutes les nations auxquelles le Seigneur m'avait envoyé. Alors vient ensuite une longue liste de nations concernées par ces guerres. Donc pas seulement Israël et Juda, mais encore bon, l'Égypte, les Philistins, Moab, Ammon, Édom, Damas, Élam et enfin Babylone.
Oui, et après cette énumération, la parole de Dieu se continue de nouveau, versets 27 à 29, chapitre 25 toujours. « Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez. Tombez et ne vous relevez pas, à cause de l'épée que j'envoie au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre la coupe de ta main et de boire, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, vous devez boire. Oui, c'est dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué que j'inaugure le malheur. Alors, comment seriez-vous quitte, vous ? Non, vous ne serez pas quitte, car j'appelle l'épée contre tous les habitants de la terre, oracle du Seigneur de l'univers. » Voilà, donc c'est l'annonce de grande bataille, et tout le chapitre 25 se termine sur une longue description de la guerre qui va se propager de nation en nation et de tous les massacres qui seront inévitables. Quand il dit vous devez boire, mais ils sont toujours présentés, ces massacres, comme l'effet de l'ardente colère de Dieu, nous dit le texte. Alors à partir de là, nous devrons réfléchir parce qu'il y a un choix à faire pour définir quel texte de Jérémie nous allons lire ensuite. Je vous rappelle que nous nous trouvons devant différentes options dans nos Bibles, selon qu'elles traduisent soit la version grecque des Septante ou le texte hébreu. Parce que, rappelons-nous, dans le texte hébreu, après cette introduction qu'on vient de vous lire, il y a tous les oracles contre les nations, donc détaillés, nation par nation, selon une certaine logique d'enchaînement. Par contre, la Bible grecque a reporté ses chapitres contre les nations à la fin du livre de Jérémie. Nous devrons donc choisir pour la prochaine émission, soit nous continuerons ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est-à-dire lire la traduction officielle liturgique catholique, celle qui suit le plan de la Septante, donc, soit au contraire nous passerons à la traduction œcuménique de la Bible qui suit le texte hébreu et va enchaîner sur les oracles des nations.
À réfléchir. Donc,
on va réfléchir et d'ici là, je pense qu'on peut vous dire au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt pour la suite du livre du prophète Jérémie.
Au revoir Catherine, au revoir à tous.